pencher particulièrement sur la participation d'acteurs non étatiques au sein de l'ONU, spécialement en ce qui concerne le rôle de l'ONU dans le développement du droit international des droits de la personne aussi. Je vais faire un petit survol qui va être parsemé de plusieurs raccourcis, je dirais, mais il y a deux aspects centraux. Donc, le développement du droit par le biais d'instruments non contraignants, ou la soft law, qui est au cœur de mes recherches en ce moment, et la participation d'une multiplicité d'acteurs dans ce processus-là. Donc, tout d'abord, peut-être quelques notes sur le rôle de l'ONU dans le développement du droit international. Donc, l'ONU étant cette grosse institution aux multiples facettes, c'est certain que ce rôle-là n'est pas unilatéral ou unidimensionnel, mais parmi ses rôles les plus flagrants en matière de droit international, donc il peut s'agir d'un forum pour la convocation ou le développement de traités multilatéraux, soit des traités qui vont être conclus dans une conférence soutenue par l'organisation ou juste dans un rôle de support, si on veut, avec l'ONU qui garde la trace des traités qui vont être ratifiés et signés à l'international. Mais c'est aussi et surtout probablement un cadre pour l'émergence ou la consolidation de normes tant politiques que légales par les activités de ces différents organes et surtout par l'adoption de résolutions qui est une des activités favorites au sein de l'organisation. Mais une distinction importante qui s'impose à ce moment-ci, alors qu'un traité multilatéral va créer des obligations qui sont légales, du moins en droit international. Donc, hier, on a abordé la question de la force du droit international en tant que tel, surtout sur la question des sanctions. Donc, si on fait fi de ce débat-là et qu'on part de la prémisse que le droit international a une force qui lui est propre, même si c'est un peu différent de la force qu'il peut y avoir dans un système légal interne, donc un traité va créer des obligations qui sont généralement claires, ou du moins on a une idée des obligations qui vont être créées lors de l'engagement. Tandis qu'une grande partie de la production normative à l'ONU, elle va être faite par des résolutions ou des déclarations. Et dans ce cas-là, c'est des instruments qu'on dit non contraignants en droit international. Donc, ils ne vont pas créer d'obligations. Donc, plusieurs personnes, surtout du point de vue des déclarations, vont insister sur leur caractère qu'on dit en anglais « aspirational ». Donc, on a une direction, on a des énoncés de grands principes, dans le développement de nouvelles normes peut-être, mais sans réelle obligation quant à la mise en œuvre du contenu de ces instruments-là. Et ces instruments non contraignants-là, c'est souvent caractérisé comme de la « soft law » ou du droit mou. Il n'y a pas vraiment de meilleure traduction en français, mais vous me permettrez de rester en anglais, puisque ce n'est pas mon terme favori, je dirais. Et puis, les dernières décennies d'évolution du droit international, à la fois général puis au sein des Nations Unies, ont montré d'une manière visible que la soft law peut s'endurcir, si on veut, de quelques manières différentes, et puis mener au développement d'obligations contraignantes. Il y a différentes routes par lesquelles ça peut se produire. Une des plus évidentes, c'est lorsque le contenu d'un instrument non contraignant va être transposé à l'intérieur d'un traité. Souvent, si les États au sein de l'ONU, par exemple, vont démarrer le processus pour un traité sur les droits de l'enfant, par exemple, s'il y a une déclaration qui existe sur le sujet, on ne va pas partir d'une feuille blanche, on va souvent utiliser le contenu de la déclaration parce qu'il y a eu tout un travail de négociation derrière, puis un texte qui a déjà été adopté par consensus. Ce que ça fait à ce moment-là, ça hausse l'importance au fur et à mesure, alors qu'on voit des développements comme ça d'une déclaration ou d'un instrument non contraignant vers un traité, ça hausse l'importance de la négociation sur le texte de l'instrument qui est censé rester la soft law et ne pas créer d'obligation, puisque ça pourrait ensuite être littéralement copié-collé à l'intérieur d'un traité. Et puis, au sein de l'ONU, en matière de droits de la personne, des 22 déclarations qui ont été adoptées en matière de droits humains, il y en a 8 qui ont mené à un ou plusieurs traités. Et puis, souvent, si on compare les deux textes, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Donc, ça hausse l'importance de la négociation sur un instrument de soft law à la base. Et puis, comme ça a été mentionné un peu plus tôt, ces déclarations-là ou instruments non contraignants peuvent être surtout politiques ou orienter les comportements ou démarrer un processus de coopération en identifiant des points focaux, des points de référence sur lesquels on peut arrimer différentes politiques internationales. Mais si on pousse plus loin que ça, en droit international, et puis d'ailleurs, je dois attribuer un peu de mérite à M. Roth, comme il disait un peu plus tôt, pour avoir éveillé mes travaux à cette vision-là, mais cette espèce de convergence des comportements, une fois qu'on a un standard qui existe, même s'il est sous une forme non contraignante, ça peut contribuer au développement du droit international coutumier. Et une fois qu'il y a une reconnaissance qui est faite à cet effet-là, ça peut alors s'appliquer à tous les États, ou ça peut mais ça peut amener une force beaucoup plus importante et beaucoup plus contraignante à un instrument qui a démarré en soft law. Donc, l'instrument de soft law peut aider à la fois à encourager une pratique étatique qui va être générale, commune et constante dans le temps, mais aussi à donner une preuve d'opinio iuris, donc la croyance qu'on on poursuit une certaine voie d'action, non seulement parce que c'est l'action qui nous semble la plus appropriée à un certain moment, mais également parce qu'il y a la croyance que ça constitue le droit ou ça devrait le constituer, en fait. Et ça, c'est les deux éléments dans la reconnaissance de la coutume, et ces deux éléments-là peuvent être identifiés à la base d'un instrument de soft law au départ. C'est sûr que cette reconnaissance-là, ce n'est pas quelque chose de fréquent. La preuve n'est pas simple. Ça doit pas être par une cour internationale, puis il y a toujours de grands débats. D'un côté, des gens qui peuvent défendre certains éléments à l'intérieur d'une déclaration comme faisant partie du droit coutumier, on va trouver à l'inverse des gens qui sont prêts à défendre le contraire. Mais le fait que cette possibilité-là existe même, ça peut introduire des défis particuliers pour le droit international. Et ça, c'est le cas surtout lorsqu'on considère que le droit international traditionnel, si on veut, est basé à forte dose sur le consentement des États affiliés. Donc, pour qu'un État puisse soumettre à une obligation, vraiment, pour qu'une obligation soit créée, en théorie, l'État devrait avoir consenti à ce que cette obligation s'applique, soit par traité de manière vraiment explicite ou soit de manière un peu plus implicite dans le cas du droit coutumier. Mais la situation dans laquelle on se retrouve avec un instrument de soft law, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. Donc, si un État consent à l'adoption d'un instrument de soft law, il y aurait le potentiel pour que cet instrument-là se solidifie et donne naissance à des obligations contraignantes, mais il n'y a pas vraiment moyen de savoir, au moment de l'adoption de cet instrument-là, quelle est la valeur légale ou politique qui pourrait se développer à partir de l'adoption. Et puis, encore là, si un État ayant dit oui à un instrument de soft law sous l'entente tacite entre les États que c'est pour rester un instrument non contraignant, si un État ensuite le respecte et continue à aligner sa pratique en fonction de cet instrument-là, ça devient une composante où l'État lui-même va participer peut-être à une reconnaissance éventuelle en droit coutumier. Et là où ce qui est intéressant dans les dynamiques globales d'ouverture, si on veut, du droit international, tant à l'ONU qu'à l'extérieur, c'est que les États sont de moins en moins seuls dans le processus à la fois de développement puis d'évolution du droit international. Donc ça m'amène à la deuxième facette de cette présentation. Il y a de plus en plus d'acteurs non étatiques qui vont participer au développement du droit international. Et ça, d'une manière traditionnelle, les opportunités étaient vraiment restreintes. Donc, on ne va pas voir d'acteurs non étatiques signer des traités, puisque c'est quelque chose qui est habituellement réservé aux États. Les organisations internationales peuvent avoir une personnalité juridique limitée, mais habituellement, c'est du domaine de l'État. Tandis que si on ouvre les vannes pour des instruments non contraignants, donc des instruments de soft law, qui n'ont pas vraiment de règles d'adoption particulières, qui n'ont pas de structure particulière, qui peuvent émaner de différents organismes, ça ouvre la porte à la participation de toute une variété d'acteurs. Puis une fois qu'un item est à l'agenda, que ce soit à travers les Nations Unies ou à l'externe, si une ONG, par exemple, décide de démarrer un projet de déclaration sur un sujet X, ça force les États à se positionner dans un certain sens. Naturellement, les acteurs traditionnels étatiques vont être impliqués dans le processus ou vont en tentative de les impliquer dans le processus probablement, mais ils vont devoir se positionner par rapport à un enjeu sur lequel ils n'avaient pas nécessairement l'intention de faire, et puis vont peut-être devoir s'impliquer dans le processus pour arrimer le développement de ces nouvelles normes-là avec l'intérêt national, parce que ce n'est pas dit que ces deux choses-là vont aller de pair. Et différents acteurs, ensuite, ne vont pas nécessairement s'entendre sur la valeur du résultat final de l'instrument de soft law qui va être adopté et des obligations qui vont en découler. Pour essayer d'illustrer ça de manière peut-être un peu plus concrète, un des cas en particulier qui illustre ces enjeux-là et sur lequel j'ai travaillé un peu plus, la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Donc, il y a quelques décennies, l'ONU a décidé, par le biais d'un sous-comité du sous-comité du Conseil économique et social, de faire une place pour une représentation de peuples autochtones d'un peu partout sur la planète, en vue éventuellement d'adopter un projet de déclaration. Alors, pour une des rares fois, je dirais, les bénéficiaires d'un instrument ont été impliqués dès le début dans l'élaboration du projet de déclaration. Et puis, l'implication directe comme ça des principaux concernés, ça peut être vraiment un avantage de taille dans le processus pour développer des normes qui collent vraiment à la réalité sur le terrain de ces groupes-là. Par contre, comme vous pouvez sûrement vous l'imaginer, ça n'a pas été un processus sans faille, disons, et certains États n'ont pas nécessairement apprécié cette façon de faire-là, parce que retirer les pouvoirs de développement du droit international ou en fait partager avec des acteurs non étatiques, c'est pas quelque chose qui a été développé d'une manière explicite en ce moment. Donc, le processus, au cours des quelques décennies, le document a évolué d'un comité à l'autre à l'ONU, ça a été bloqué ou ralenti très substantiellement à diverses étapes, surtout lorsque le document arrivait à un comité qui était plus de nature interétatique et plus traditionnelle, et où là, les États essayaient de reprendre un peu le contrôle du document ou des nouvelles normes, l'application des nouvelles normes qui étaient établies dans le document. Et puis, le résultat final ensuite, qui a été présenté à l'Assemblée générale en 2007, bien que c'était encore une fois sous une forme de déclaration non contraignante, ça soulevait assez de points problématiques pour qu'on constate une position qui s'était jamais vraiment vue, à part une petite exception à l'ONU en matière de déclaration sur un sujet de droit de la personne. Il y a quatre États, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, qui ont décidé de s'opposer parce que, justement, il y avait assez d'éléments problématiques que même si le document, au moment de son adoption, n'avait pas la capacité de créer des obligations contraignantes, il y avait assez d'inconfort, si on peut dire, pour justifier une opposition et un ralliement tardif, mais ça, c'est une autre facette, je dirais. Et en ce moment, l'ONU et les différentes composantes de sa structure, une fois que ce document-là a été adopté, bien, font tout leur possible pour le mettre en œuvre. Donc, il y a eu la création de plusieurs postes spéciaux, mécanismes spéciaux à l'intérieur de l'ONU pour l'application de ce document-là. Puis, il y a aussi eu des conférences étatiques, mais aussi avec une force présente non étatique pour travailler sur la mise en œuvre. Mais certains États sont toujours frileux et tentent de diminuer la valeur légale d'un instrument parce que ça semble être le nerf de la guerre et pas se commettre en vue de son application, même minimiser le rôle de la déclaration, même lorsqu'ils appliquent des politiques publiques qui sont en totale adéquation avec la déclaration. On va tenter de mettre ça sur le dos d'une politique nationale et non pas la mise en œuvre d'un document qu'on veut garder non contraignant et auquel on ne veut pas donner nécessairement plus de poids. Alors, en résumé, je dirais, les instruments non contraignants, qui sont légion à l'ONU, offrent vraiment une opportunité importante pour la participation d'acteurs non étatiques dans le développement du droit international. Mais plus il y a du progrès de ce côté, ce qu'on a pu constater au cours des dernières décennies au sein de l'ONU, plus des États particulièrement activistes ou des acteurs non étatiques vont tenter d'obtenir de plus en plus de résultats à partir d'un engagement non contraignant de la part de l'État. C'est possible que des comportements du genre d'opposition à des documents non contraignants soient quelque chose de plus en plus fréquent aussi. Donc, il y a cette espèce de combat entre une tentative de tirer le maximum d'un instrument non contraignant et le risque que les États, au fur et à mesure que les nouveaux instruments sont présentés pour adoption, évaluent avec beaucoup plus de circonscription, beaucoup plus d'attention aussi les effets légaux et politiques potentiels qui pourraient en découler.